Le journal, Corinne Audouin. Bonjour Corinne.
Bonjour. Il a dynamité le gouvernement italien. Matteo Salvini veut gouverner seul. Le ministre de l'Intérieur demande des élections anticipées. Il a annoncé hier soir que le gouvernement de coalition auquel il participe n'avait plus de majorité. Et puis, symbole de la politique de fermeture prônée par Matteo Salvini, le navire Open Arms, affrété par une ONG espagnole, erre en Méditerranée avec 121 migrants à son bord. Malte et l'Italie refusent de l'accueillir. Nous ferons le point sur la situation à bord. En Syrie, les forces gouvernementales reprennent du terrain sur les insurgés dans le nord-ouest du pays. La situation humanitaire est préoccupante pour les 3 millions de civils qui vivent dans la région. Les plaintes pour violences sexuelles en hausse de plus 6% au mois de juillet. La tendance enclenchée depuis le mouvement MeToo se confirme. Les explications de Sarah Guibaudot dans ce journal. À Signes dans le Var, les obsèques du maire Jean Michel se tiendront ce matin en présence de nombreux politiques, mais sans Emmanuel Macron, pourtant en vacances tout près à Brégançon. La Ligue 1 de football, c'est reparti. Coup d'envoi ce soir avec Monaco-Lyon. On fera le point sur les nouveautés de la saison. Et puis, il était l'anard, l'inclassable, la grande gueule du cinéma français, Jean-Pierre Mocky. Retour sur l'homme aux 80 films avec vos invités, Laetitia.
Oui, parlons ensemble de Jean-Pierre Mocky, de son cinéma, de ce qu'il y disait, de ce qu'il y revendiquait. Dans le grand entretien à 8h20, avec son fils Stanislas Nordet, l'acteur Jean-François Stévenin, le compositeur de ses musiques de films pour beaucoup, Vladimir Cosma et le journaliste et historien du cinéma Jean-Michel Frodon. Posez vos questions aussi sur l'appli franceinter.fr, sur le site franceinter.fr. Au standard également, appelez-nous au 01 45 24 7000. Il est ouvert, on attend vos questions.
France Inter.
La crise couvait depuis des mois en Italie, mais Matteo Salvini a pris tout le monde de court. L'homme fort du gouvernement italien de coalition, ministre de l'Intérieur, chef de la Ligue d'extrême droite, a réclamé hier soir des élections anticipées le plus vite possible. L'annonce a provoqué la colère du chef du gouvernement et de son ex-allié, le mouvement 5 étoiles. Fort de ses bons sondages, Matteo Salvini espère des élections rapides pour pouvoir gouverner seul. Isabelle Labéry.
Depuis le score triomphal de son parti aux élections européennes, Matteo Salvini n'avait qu'une idée en tête, se débarrasser de son principal allié opposé à la plupart de ses projets. Mercredi encore, le mouvement 5 étoiles a tenté de bloquer le chantier de la ligne à grande vitesse Lyon-Turin, défendu mordicus par la Ligue. C'est ce qui a servi de déclencheur. Mais le patron du parti d'extrême droite veut aussi depuis longtemps la tête du ministre du budget, jugé trop conciliant avec Bruxelles. Hier soir, après avoir rencontré plusieurs dirigeants politiques, Matteo Salvini a donc expliqué par communiqué qu'il n'y avait plus de majorité, que le pays devait en prendre acte et organiser des élections le plus rapidement possible. Réponse dans la foulée du président du Conseil, Giuseppe Conte, ce n'est pas à M. Salvini de décider du moment de la crise. Mais les jours du gouvernement sont comptés, les états-majors des autres partis se mettent déjà en ordre de bataille pour ce scrutin qui semble inéluctable. Matteo Salvini, qui multiplie cette semaine les meetings sur les plages d'Italie, est lui reparti en campagne, toujours un coup d'avance.
Et c'est un symbole de la politique de fermeture prônée par Matteo Salvini. Le bateau Open Arms, qui navigue depuis 6 jours en Méditerranée avec 121 migrants à bord, dont 2 bébés, ne peut pas accoster. Impossible pour ce navire affrété par une ONG espagnole de débarquer. Malte a dit non et l'Italie a interdit au bateau d'approcher de ses côtes sous peine de confiscation. Sans solution, l'équipage appelle les pays européens à l'aide. Élise Delève.
L'Open Arms n'est qu'à quelques dizaines de kilomètres de l'île italienne de Lampedusa. À bord, 121 migrants, dont 2 bébés et 30 mineurs. Ils vivent depuis plus d'une semaine sur le pont du bateau, leur gilet de sauvetage en guise de coussin. Annabelle Montes, chef de mission, envoie tous les jours, depuis le navire, des vidéos sur Twitter pour expliquer la situation des réfugiés.
Plus le temps passe, plus il est difficile de leur expliquer pourquoi on n'accoste pas, leur expliquer pourquoi on ne les mène pas vers un port sûr où leur vie ne sera plus en danger. Plus le temps passe, plus ils sont anxieux, nerveux. Et on ne veut pas arriver au point où la situation devient incontrôlable. La politique ne peut pas être au-dessus de l'humanité. Nous rappelons qu'il y a urgence à trouver un port sûr où nous pourrons débarquer ces personnes en respectant les conventions et les accords internationaux. notamment la déclaration des droits de l'homme et le droit à la vie.
L'Open Arms attend une solution similaire à celle trouvée pour le bateau Alan Kurdi le week-end dernier. Les 40 migrants sauvés par cette ONG allemande ont été répartis dans 5 pays, dont la France. 5, c'est une avancée dans la collaboration européenne, mais c'est beaucoup moins que ce qu'avait annoncé Emmanuel Macron fin juillet. Le président français s'était alors félicité d'avoir trouvé un accord de répartition avec 14 pays.
Et de son côté, l'Ocean Viking, le nouveau bateau de secours affrété par SOS Méditerranée et Médecins Sans Frontières, est en route vers les eaux territoriales libyennes. En Syrie, la reprise des combats dans la zone d'Idlib fait craindre le pire. Après 4 jours de trêve négociée par la Russie et la Turquie, le régime syrien a repris lundi ses frappes dans cette région du nord-ouest dominée par les insurgés djihadistes. 3 millions de personnes y vivent, laissées à l'abandon. Nadim Houri est directeur exécutif du Centre pour l'Initiative Arabe. Il en appelle à une solution politique pour éviter un désastre humanitaire.
Comment sortir de cet engrenage infernal aujourd'hui? À mon avis, il faut à nouveau que le Conseil de sécurité se saisisse vraiment de la question de Idlib. Le Conseil de sécurité et les membres permanents du Conseil de sécurité ont délaissé la question de Idlib à la gestion turco-russe. Et c'est une gestion qui est en train d'échouer parce que chacun a ses intérêts. Même si une partie de la solution va passer par cet accord turco-russe, il n'est pas suffisant. Au niveau du Conseil de sécurité, il faut qu'il y ait des gages pour que ces cessez-le-feu soient respectés. Il n'y a pas une solution militaire facile à Idlib, il faut qu'il y ait une solution politique. Là, on va directement vers une situation dangereuse où Idlib pourrait devenir une espèce d'enclave comme Gaza, qui va être complètement isolée du monde, avec des millions de personnes qui vivent dans une misère absolue et de moins en moins d'intérêt international.
Nadim Houri avec Valérie Crova. C'est le début aujourd'hui du traditionnel pèlerinage de la Mecque. Plus de 2 millions de musulmans sont attendus en Arabie Saoudite. Ce vendredi, les pèlerins assisteront à la prière dans la grande mosquée. Un défi logistique pour le royaume qui a mis au point des cheminements climatisés, des applications et des bracelets connectés pour que tout se passe bien. Pour tout savoir sur ce Smart Hajj, rendez-vous sur franceinter.fr.
C'est une vague qui continue de déferler presque 2 ans après le début du mouvement MeToo. Les violences sexuelles enregistrées par les forces de l'ordre continuent d'augmenter.
Oui, plus 6% de plaintes enregistrées au mois de juillet, plus 10% sur un an. La tendance se confirme en effet. Depuis 2017, cela fait 30% de hausse. Les femmes déposent donc plus souvent plainte. Un premier pas, mais pas forcément suffisant. Les explications de Sarah Guibaudot.
Si les victimes qui portent plainte restent une minorité, l'augmentation, très nette fin 2017 après la vague MeToo et Balance ton porc, se poursuit. Le chiffre des violences sexuelles enregistrées par les commissariats et gendarmeries s'était tassé à la fin de l'année dernière. Il est reparti à la hausse depuis janvier. Le service statistique du ministère de l'Intérieur y voit 2 explications. Le contexte de libération de la parole et l'amélioration de l'accueil des victimes. C'est aussi ce qu'a constaté Emmanuelle Piet, présidente du collectif féministe contre le viol. Mais il reste beaucoup à faire.
Les femmes ont plus de courage pour parler. Par contre, beaucoup de femmes nous parlent encore d'enquêtes difficiles, de refus de plainte. Ces derniers temps, quelques améliorations. Des femmes nous disent avoir été mieux reçues par les policiers. Donc, bien sûr, les policiers prennent peut-être plus de plaintes. Néanmoins, les enquêtes préliminaires ne sont pas encore à la hauteur des demandes des victimes.
Paradoxalement, depuis 10 ans, le nombre de plaintes pour viol augmente et celui des condamnations baisse. Il y a beaucoup de classements sans suite. Pour les associations, il faut mettre l'accent désormais sur la qualité du recueil de plaintes et des investigations qui s'en suivent.
5 Français de 18 et 19 ans mis en examen hier à Benidorm en Espagne pour abus sexuels. Cela fait suite à une plainte de 2 Norvégiennes de 20 ans. Elles les accusent de viol en réunion. 3 de ces jeunes Français ont été placés en détention provisoire. Les 2 autres ont été remis en liberté. Tous sont originaires de Toulouse. Quand la mort d'un maire d'une petite commune devient un symbole national, Jean-Michel sera enterré ce matin dans sa ville de Signes, dans le Var, en présence de nombreux élus. Il avait été renversé par une camionnette qui venait de déverser des gravats dans une décharge sauvage. Les 150 maires du Var devraient être présents, ainsi que le président du Sénat, Gérard Larcher, et la ministre de la Cohésion des Territoires, Jacqueline Gourault, venue représenter le gouvernement. Emmanuel Macron, qui avait salué avec respect le dévouement inlassable de l'élu et adresser une lettre de condoléances à sa famille, restera lui au fort de Brégançon. Karine Brécard.
Emmanuel Macron a beau passer ses vacances dans le Var, au fort de Brégançon, et il a beau chercher, depuis la crise des Gilets jaunes, à se rabibocher avec les élus de terrain, il ne sera pas ce matin aux obsèques du maire de Signes, comme cela a été convenu avec la famille du défunt. C'est donc sa ministre de la Cohésion des Territoires, Jacqueline Gourault, qui a été chargée de représenter l'exécutif. Elle sera aux côtés de Gérard Larcher, le président du Sénat. Pas question pour lui, à un an des élections sénatoriales, de manquer à son rôle de représentant des collectivités territoriales, comme l'AMF d'ailleurs, l'Association des maires de France, qui a décidé d'envoyer sur place David Lisnard, le maire de Cannes, qui est l'un de ses vice-présidents. De nombreux maires, évidemment, sont attendus avec leur écharpe tricolore, mais en revanche, assez peu de députés, ceux du département essentiellement. Même l'Assemblée nationale ne sera pas représentée par Richard Ferrand, son président.
Karine Bécard.
Inclassable, extravagant, féroce, autant que ses films, on se souviendra du personnage Jean-Pierre Mocky.
Oui, le cinéaste aux 80 films, hein, si on compte tout, le cinéma, la télévision, etc. Le Miraculé, À mort l'arbitre, Les saisons du plaisir. Jean-Pierre Mocky est mort hier à l'âge de 90 ans. Il était d'ailleurs devenu un habitué des plateaux de télévision entre provoque et coup de gueule. Et sur les plateaux de cinéma aussi, les avis de tempête soufflaient parfois Bastien Munch.
C'est l'une des séquences de tournage les plus connues du cinéma français. Jean-Pierre Mocky à la réalisation de La Candide Madame Duf en 2001.
Le Perchman n'est pas là, tu te rends compte? Qu'est-ce que tu fous là-bas? Viens là, nom de Dieu! Oh, mais qu'est-ce que tu as allé foutre là-haut?
C'est bien connu, quand Mocky tourne, il faut le laisser dans sa bulle. Jacques Remier, ancien maire de Vienne, en a fait l'expérience. C'était sur le tournage du très controversé Les Balais écarlates en 2005.
Il fallait pas le déranger, y compris le maire d'ailleurs, parce que j'essayais de m'approcher de lui, etc. Non, non. D'ailleurs, ses collaborateurs me faisaient fuir en quelque sorte parce qu'ils voyaient que son film.
Alors, toutes ces sautes d'humeur se retrouvent aussi dans la filmographie de Mocky, souvent qualifié d'inclassable tant il a alterné les genres, mais avec toujours un rejet du conformisme, des règles établies, notamment quand il parle du Festival de Cannes, c'était en 2010.
Tous les films chiants à mort, ils sont récompensés automatiquement, et même par des gens qui les détestent. Quand on était au conservatoire avec Belmondo, c'est des mecs qui ont eu les prix, et bien on les a jamais entendu parler d'eux d'ailleurs. Un prix, ça veut rien dire.
Et pourtant, des acteurs reconnus, il en a fait jouer dans ses films, à l'image de Catherine Deneuve dans Agent Trouble en 1987, des acteurs qui faisaient confiance à Jean-Pierre Mocky et acceptaient volontiers son côté imprévisible.
Et on peut sans trop s'avancer penser que ça l'aurait fait râler, pour pas dire autre chose de plus vulgaire. Emmanuel Macron a rendu hommage à Jean-Pierre Mocky. Pour le chef de l'État, la France perd un sublime et salutaire impertinent. C'est reparti pour la Ligue 1. Le championnat de France de football reprend ce soir avec le choc Monaco-Lyon. Pour cette saison 2019-2020, le PSG tenant du titre par archi favori. Les outsiders s'appellent Lyon et Monaco, mais au-delà des pronostics, quelques nouveautés au programme cette année du côté de l'arbitrage, notamment Bruno Salomon.
Même si elle préfère la discrétion, Stéphanie Frappard n'échappera pas cette saison à tous les regards. Elle qui a arbitré la finale de la Coupe du Monde féminine et qui va diriger la Super Coupe d'Europe le 14 août prochain entre Liverpool et Chelsea, va effectuer sa première saison complète en Ligue 1. Un championnat et des joueurs qui vont devoir s'adapter aux nouvelles règles d'arbitrage. Alors attention, on ne réclame plus la vidéo-assistance dès qu'il y a le moindre incident de jeu sous peine de carton jaune. Dans la surface, les jeux de main sont définitivement proscrits et quand on est gardien sur un pénalty, on garde au moins un pied sur la ligne. Pour le reste, pêle-mêle en Ligue 1, il y a un nouveau ballon jaune, marine et blanc. La Ligue a aussi demandé à ce que les parkages visiteurs soient à 10 euros. Le match du samedi après-midi se jouera désormais à 17h30. Et puis pour le reste, eh bien rien ne change en Ligue 1 puisque c'est toujours le PSG le grand favori.
Allez, pour terminer, je vous emmène guincher au bord de la Marne. Yes. Avec 400 seniors emmenés par le Secours populaire. Mais oui, mais vous savez, on n'en est pas si loin des seniors, Laetitia.
C'est ça.
Pour une journée magique, loin des soucis du quotidien, au programme, visite de Paris en bateau-mouche, suivie d'un repas à la guinguette chez Gégène, en bord de Marne. Une journée que tous attendent avec beaucoup d'impatience. Ariane Grissel a rencontré Catherine, qui s'y prépare depuis plusieurs jours.
Ça fait un moment déjà que Catherine, 81 ans, a la tête à la guinguette. Elle a soigneusement choisi sa robe.
Elle est jolie, elle vous plaît. Avec des petites chaussures très confortables. Donc je vais pouvoir danser et m'amuser comme une petite folle.
Quand le Secours populaire lui a proposé de participer une troisième fois à cette journée.
J'étais heureuse, heureuse, heureuse.
Et pas question de laisser embarquer le quotidien, problèmes financiers, solitude pour certains.
Certaines personnes les abordent. Moi, je refuse catégoriquement. Je suis là pour me distraire et tous ces soucis, je les laisse derrière moi.
Non, cette croisière, c'est un aller simple vers les amis et la musique.
Ah, le petit. Petit vin blanc qu'on boit sous les tonnelles quand les filles sont belles du côté de nos gens. Quelquefois on danse avec des inconnus.
Un air de vieille romance.
Et la première chose que l'on fait quand on arrive, on va voir s'ils sont là aussi cette année. Parce qu'en général, ce sont de bons danseurs.
La guinguette va certes fermer ses volets, mais Catherine sait que les effets de cette journée se feront sentir encore longtemps. Pas question donc de la rater. Elle a même déjà fait l'aller-retour jusqu'au lieu d'embarquement, histoire d'être sûre de ne pas arriver en retard.
Cette robe claire, venez belle fille là sous la charmille, soyez bien gentille, l'amour nous attend. Les tables sont prêtes, l'aubergiste honnête, il y a des chansonnettes et il y a du vin blanc. Ah, le petit vin blanc.
Et voilà, tout le monde chante en studio. On n'est peut-être pas senior, mais on connaît nos classiques.
Merci Corinne Audouin. Un classique, la météo, Stéphanie Fromentin. Non, vous êtes beaucoup moins drôle puisqu'il y a une dépression qui aborde le pays.
Ah ben, j'en suis désolée. Et elle s'étire cette dépression dès ce matin du Poitou-Charentes jusqu'au Hauts-de-France en passant par la Normandie et l'Île-de-France. Le ciel est chargé, les plus localement soutenus, notamment de la baie de Seine à la côte d'Opale. Les précipitations seront plus légères sur le Poitou-Charentes. Un coup de tonnerre n'est pas exclu dès ce matin vers le Pas-de-Calais. À l'arrière de ce front instable, les éclaircies reviennent sur la Bretagne, même si le vent souffle déjà à 60 km par heure. Et à l'avant de cette perturbation, des régions centre au Grand Est, le ciel voilé va se charger progressivement. En matinée, les ondées restent éparses, mais un orage est possible dans les Ardennes. Cet après-midi, la perturbation avance. C'est moi qui suis perturbée. On la retrouve entre la Gironde en allant vers le Limousin, les régions centre et les Ardennes. Au nord de la Loire, le ciel prendra un caractère instable avec des orages, parfois de la grêle. Les éclaircies gagneront tout de même la Haute-Normandie jusqu'à l'ouest de l'Île-de-France, mais le vent se renforce 60-70 km par heure dans les terres, 80-90 sur les côtes et en mer. L'arc méditerranéen bénéficie d'un beau soleil, seul bémol, le Languedoc-Roussillon, où le vent va souffler à 70 km par heure et couvre la zone de nuages tenaces. Météo France a placé 6 départements du nord-est et 3 départements du sud-ouest en vigilance orange pour des orages.
Ce qui signifie que les températures sont en hausse, surtout dans le sud-ouest.
Voilà, nous gagnons 3 à 6 degrés du sud-ouest au nord-est par rapport à hier. Comptez 21 à 27 en Manche, 31 à 35 ailleurs, localement 38 dans le sud-ouest ou en basse vallée du Rhône.
Merci Stéphanie Fromentin.